de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Plus d'un million et demi de Français vapotent aujourd'hui. Alors, cette fameuse cigarette électronique est-elle un bon moyen pour arrêter de fumer ?
De quel type de produit il s'agit ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un produit de grande consommation ? Est-ce que c'est un dispositif médical ?
Pourquoi un tel succès d'abord ? Parce que les gens ont envie d'arrêter de fumer.
Oui, je pense d'abord qu'il y a plusieurs populations. Certains veulent arrêter de fumer et ont d'énormes difficultés avec cette addiction, qui est une addiction sévère, à la fois neurobiologique et comportementale.
Ah, la cigarette électronique dans Enjeux de santé. Comment pouvait-on passer à côté ? Chacun y va de son petit grain de sel ces derniers temps. Pourquoi ne pas y ajouter le nôtre ? Presque impossible de passer à côté des controverses récentes autour de la dangerosité supposée de la cigarette électronique. Sans prétendre remporter la partie sur ce point, disons que l'étude du New England Journal of Medicine a peut-être été un peu vite incriminée pour ses résultats. Qui a lu le rapport ? Quel était son objectif ? Assistons à une véritable controverse scientifique où les données issues des rapports sont-elles soumises à des interprétations médiatiques qui nous en donnent l'impression ? Pour en parler et tenter d'éclairer certains de ces points, j'ai rencontré Catherine de Bournonville, médecin tabacologue responsable de l'unité de tabacologie du CHU de Rennes. Au-delà de la controverse, j'ai voulu connaître les effets de la cigarette électronique sur l'activité des professionnels de santé. Et puis, à l'approche de la parution du premier grand rapport de l'Institut National de la Prévention et de l'Éducation pour la Santé sur les usages de la e-cigarette, quelles sont les premières tendances que les professionnels de santé observent sur le terrain ? Avec Catherine de Bournonville, nous avons tout d'abord voulu nous remettre au clair avec la fonction du tabacologue et les différentes dimensions de l'addiction à la cigarette, puisque c'est bien par la comparaison avec la cigarette classique que le phénomène de la cigarette électronique devient parlant. L'unité de tabacologie et l'accompagnement qu'elle propose, qu'est-ce que c'est ?
C'est une unité qui existe depuis les années 90 et notre principal travail, c'est d'accueillir des personnes désireuses d'arrêter de fumer. On a aussi une activité, on va dire, de formation. Mais notre principale activité, c'est l'aide à l'arrêt du tabac.
Comment se déroule le processus pour les patients qui souhaitent s'engager dans un sevrage tabagique ?
Alors, il faut savoir que on est censé recevoir plutôt des personnes chez qui c'est particulièrement difficile d'arrêter de fumer. La majorité des personnes qui arrêtent de fumer le font spontanément et tout seul, quitte à s'y reprendre plusieurs fois. Le premier recours est davantage le soignant de proximité, principalement le médecin traitant, mais parfois aussi le pharmacien, qui par ses conseils peut aider un petit peu les gens à arrêter de fumer. Et nous, on intervient pour les personnes qui soit directement, soit après ces étapes-là du pharmacien, du médecin traitant, n'arrivent pas à arrêter de fumer. Donc ils appellent, on a un numéro qui est plus ou moins facilement accessible. En tout cas, ils passent par le CHU de Rennes et par le standard et ils sont facilement orientés ici. Et ils prennent un rendez-vous. Lorsque les personnes prennent le rendez-vous, en fait, on leur envoie un petit dossier qu'ils vont remplir chez eux tranquillement à tête reposée, qui leur permet de, on va dire, de réfléchir déjà à la question et qui permet aussi que la première consultation ne soit pas un interrogatoire policier parce qu'on a besoin de connaître les gens, on a besoin de faire un bilan un peu complet avec la personne parce qu'après, l'accompagnement, il va être individuel et il va être personnalisé. Pour ça, il faut qu'on connaisse les gens et toutes ces informations, on préfère finalement les avoir sous la main dans un dossier qui a été rempli plutôt que de faire un interrogatoire un peu policier lors de le premier entretien. Et ça permet que cet entretien soit un petit peu plus spontané. À l'issue de ce premier rendez-vous, on détermine ensemble le rythme du suivi, le nombre de consultations, et les personnes peuvent revenir, à volonté autant que nécessaire. Pour vous donner un exemple, on peut avoir des gens qui viennent une fois par semaine et puis des gens qui viennent une fois par mois ou tous les deux mois, c'est extrêmement variable. C'est vraiment extrêmement personnalisé, c'est-à-dire que c'est à l'issue du bilan qu'on va pouvoir, avec la personne, déterminer, en fait, finalement, l'aider à construire sa propre méthode pour arrêter de fumer, dans lequel, c'est vrai, on va utiliser un certain nombre d'approches et éventuellement des traitements. Alors ici, on est dans un centre hospitalier universitaire. On n'utilise ici que les traitements qui ont été validés, avec des études suffisamment sérieuses pour les valider. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a effectivement les traitements de substitution nicotinique que tout le monde connaît, qui sont accessibles en pharmacie, les patchs notamment, les chewing-gums à la nicotine, etc. Aussi un certain nombre de traitements, notamment la varenicline qu'on connaît sous le nom de Champix, qui est un traitement qui a également été validé dans le sevrage tabagique, et le Ziban, le bupropion, qui est un traitement qui a également été validé mais qui n'est très très peu utilisé actuellement.
D'accord.
Et puis on a aussi une approche particulière pour on va dire aider les gens à renforcer leur motivation qui s'appelle l'entretien motivationnel. Donc là c'est pas du tout un traitement, c'est simplement un type d'entretien qui fait que on va aider la personne à construire sa propre motivation. On utilise aussi des techniques issues des thérapies cognitivo-comportementales. C'est un mot un peu long et un peu savant. Pour dire qu'on va finalement aider, faire que la personne devienne autonome dans son sevrage, autant sur sa capacité à se motiver, à clarifier un petit peu ses intentions, à modifier un petit peu sa perception de l'importance de la cigarette pour elle, mais aussi à faire face à des situations à risque, à être capable de les identifier, de les anticiper et d'agir en conséquence. Voilà.
Donc là, on l'a un peu remarqué en filigrane de votre propos, il y avait différents mécanismes qui étaient pointés qui sont en jeu dans la dépendance au tabac. Vous avez notamment parlé de traitements donc qui ont plus une caractéristique physiologique, mais on se doute que c'est pas la seule caractéristique qui est en jeu dans la dépendance.
Voilà, exactement. En fait, quand on va avec la personne essayer de faire un petit peu un bilan de ce qu'elle est et de sa relation avec la cigarette, on va faire, on va dire, une sorte de diagnostic ou de bilan où on va à la fois mesurer les différentes dimensions de sa dépendance, mais aussi la maturation de son projet d'arrêt, sa motivation en quelque sorte, si vous voulez. Alors, pour la dépendance, on sait qu'il n'y a pas qu'une composante physique. La composante physique, elle est importante, elle est parfois sous-estimée par les fumeurs, mais c'est pas pour rien que c'est du tabac qu'on fume et pas, je sais pas moi, de la verveine bio ou n'importe quoi. C'est parce qu'il y a quand même une substance addictive qui va renforcer l'attachement qu'on va avoir au produit. Mais il y a aussi des aspects qui sont peut-être davantage psychologiques, c'est-à-dire la place que la cigarette va prendre dans ma vie, les fonctions que je vais lui donner, qui trouvent leur source un peu dans la manière dont j'ai commencé à fumer, dans la manière dont est installé mon tabagisme. Et puis des aspects plus comportementaux qui sont liés à l'influence de l'environnement et des différentes situations de l'environnement sur le fait de fumer ou pas fumer. Je peux donner des exemples peut-être. Pour la dépendance comportementale, il y a des associations un peu automatiques entre fumer et certaines choses. Par exemple, de manière assez classique, beaucoup de fumeurs qui s'autorisent à fumer dans leur voiture fument au feu rouge. C'est des temps d'attente, c'est des blancs, c'est des moments un peu d'inactivité. Hop, il y a un feu rouge, je vais allumer ma cigarette. Comme si le feu rouge envoyait un signal qui est fume. Finalement, il y a une sonnette qui a retenti, c'est devenu automatique. On réfléchit pas, on se retrouve avec une cigarette dans la main, alors sans forcément y avoir pensé ni l'avoir désiré. Il y a toute une partie où on amène la personne à être plus attentive à sa manière de fumer, à se faire en quelque sorte le journaliste d'elle-même. Ça va nous aider ensemble à repérer justement qu'est-ce qui peut mettre en danger son projet d'arrêt du tabac.
Alors, on parlait donc au début d'une dépendance physiologique. Oui. Mais pas que, on vient de le préciser. Mmh. Mais alors, du point de vue physiologique, la nicotine, ça fonctionne comment, la dépendance à la nicotine ?
Alors, la nicotine, c'est une substance qui est naturellement présente dans le tabac. C'est-à-dire que c'est pas les vilains marchands de tabac qui rajoutent de la méchante nicotine dans les cigarettes. C'est quelque chose qui est naturellement présent dans le tabac, qu'il soit bio ou pas bio. Alors, je préfère le dire parce que quelquefois, on se dit, je vais prendre du tabac bio, ça va être mieux, etc. Dans l'état actuel des connaissances, il y a autant de risques d'avoir un cancer du poumon avec du tabac bio qu'avec du tabac pas bio. Aucune cigarette pour l'instant n'a fait la preuve qu'elle était moins dangereuse qu'une autre. La nicotine, c'est une substance qui ressemble beaucoup à une substance qu'on fabrique nous-mêmes et qui s'appelle l'acétylcholine, et qui est une substance dont le but est finalement de servir un peu de message entre deux signaux nerveux, signaux électriques. L'acétylcholine, c'est une substance très répandue dans tout notre organisme. Et pour que cette substance-là puisse servir de messager, il faut qu'elle puisse se fixer sur des récepteurs qui sont situés un petit peu partout sur les neurones, notamment dans notre organisme. Et il se trouve que certains de ces récepteurs peuvent également être activés par la nicotine. On les appelle d'ailleurs des récepteurs nicotiniques. Voilà, ça c'est une découverte très ancienne en fait, hein, que ces récepteurs pouvaient être activés par l'acétylcholine, mais aussi par la nicotine. Et lorsqu'un récepteur comme ça est activé, ça va déclencher exactement comme un interrupteur. Lorsque vous appuyez dessus, il y a une lumière qui s'allume, parce que lorsque vous allumez l'interrupteur, il y a un courant électrique qui est produit et il y a quelque chose qui s'allume à l'arrivée. Là, c'est pareil, il y a un courant électrique qui est produit au niveau du neurone, et le quelque chose qui s'allume à l'arrivée, c'est la sécrétion d'autres médiateurs qui vont également modifier le fonctionnement cérébral. Voilà, notamment par exemple la dopamine, voilà. Donc l'activation des récepteurs à la nicotine, ça va entraîner une cascade de modifications au niveau du système nerveux central, et notamment dans des endroits très profonds du système nerveux central qui sont impliqués dans ce qu'on appelle le système de récompense. Système de récompense, c'est quelque chose de physiologique qu'on retrouve chez tous les mammifères, et qui est destiné normalement à assurer un peu la survie de l'espèce. Le système de récompense, si vous voulez, c'est j'ai faim, j'ai très très faim, je mange, et c'est vrai que quand on a très très faim, on dit même je mangerai n'importe quoi, et on a du plaisir à manger. Et la mémoire du plaisir que j'ai eu à manger, donc à satisfaire ma faim, la prochaine fois que je vais avoir faim, je vais me mettre en quête de nourriture pour retrouver ce plaisir-là. Voilà, le système de récompense, donc c'est quelque chose de physiologique qui existe chez tout le monde, et toutes les drogues ont la propriété de parasiter ce système de récompense et de faire en définitive que ça va être aussi indispensable pour moi de fumer que de manger ou de boire. Manger, boire, j'en ai besoin. Si je ne mange pas, si je ne bois pas, je vais crever. Et finalement, l'addiction, c'est quoi? C'est si je ne fume pas, je vais crever. Et les Anglais, d'ailleurs, utilisent un terme qui s'appelle le craving, qui vient de notre mot français crever. C'est-à-dire, si je ne fume pas, je vais crever.
Alors moi j'ai souhaité vous rencontrer aujourd'hui, c'était pour qu'on parle plus précisément de la cigarette électronique, alors nous y voici, parlons-en. Qu'est-ce que ça a changé l'arrivée de la cigarette électronique, surtout sa massification, dans votre pratique de tabacologue? Est-ce que vous avez senti vraiment des changements, peut-être voire même des bouleversements, je ne sais pas?
Alors je vais pas directement faire un lien, parce que pour trouver une causalité il faudrait approfondir plus, mais c'est évident que depuis cette année et l'année dernière, on a une baisse de fréquentation de notre consultation de tabacologie. Alors que jusqu'à présent, c'était en hausse quasi constante. Il est possible que le marché exponentiel de la cigarette électronique fasse que c'est devenu le truc qu'on utilise en ce moment pour arrêter de fumer, qui est du coup une désaffection pour nos consultations, en même temps que d'ailleurs une baisse des ventes de traitements classiques du sevrage tabagique en pharmacie. Concrètement et sur un plan général, voilà ce que ça a changé. Ce que ça a changé aussi, c'est qu'en fait, on voit de plus en plus de personnes qui viennent ici à l'unité de tabacologie, qui sont des usagers de la cigarette électronique ou qui envisagent de l'utiliser pour leur arrêt du tabac. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir en consultation pour qu'on les aide à arrêter de fumer, mais dont le souhait est, pour cet arrêt du tabac, d'utiliser la cigarette électronique comme outil. Dans toutes les consultations de tabacologie, on a, on va dire, une bonne moitié de nos patients qui a ou qui a eu une cigarette électronique.
Et en tant que médecin, comment vous regardez-vous? Parce que c'est un peu aussi l'interrogation que j'ai, et j'imagine aussi les auditeurs, c'est les controverses scientifiques qu'on voit aujourd'hui débarquer dans les médias sur les risques potentiels de la cigarette électronique.
Alors nous, on est surtout très très attentif à tout ce qui sort sur la cigarette électronique, et on va aussi être très très attentif à l'origine de ce qui sort sur la cigarette électronique. C'est-à-dire que si vous voyez dans un journal grand public, la cigarette électronique 15 fois plus toxique que la cigarette, vous regardez d'où ça vient, vous regardez l'article, et puis après vous prenez du recul et vous regardez qu'est-ce que ça veut nous dire exactement cet article, au-delà du titre choc, qui est bien sûr un titre journalistique et qui correspond malheureusement pas à la réalité. Et puis après, on essaye surtout ensemble, entre professionnels, de faire une synthèse de tout ça. La chose nouvelle aussi, c'est que jusqu'à présent, les fumeurs ne sont pas très très partie prenante de tout ce qui tourne autour de l'arrêt du tabac. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas trop partie prenante, c'est-à-dire que soit vous êtes dans votre arrêt du tabac et vous vous occupez de ça à fond à titre individuel. Soit vous êtes fumeur, vous ne voulez pas arrêter de fumer, vous vous en fichez de tout ça. Et soit vous avez déjà arrêté de fumer et vous tournez la page et vous en fichez de tout ça. Et là, avec la communauté des vapoteurs, on voit des ex-fumeurs, des fumeurs en réduction de consommation, des fumeurs intéressés par l'arrêt, qui s'investissent, qui sont présents, qui occupent le terrain autour du sevrage tabagique. Et qui se revendiquent vapoteurs et qui sont la plupart du temps en réalité des fumeurs ou des ex-fumeurs. Voilà. Du coup, on va intégrer la participation des usagers, ce qui se fait dans d'autres choses. Par exemple, vous prenez le diabète, les associations diabétiques sont intégrées déjà depuis un petit moment à la gestion du diabète, les politiques de santé autour du diabète. Pareil, par exemple, pour le cancer du sein. Pour le tabac, jusqu'à présent, finalement, les fumeurs étaient peu intégrés parce que peu présents, occupant peu, il n'y avait pas d'association de futurs ex-fumeurs, ça n'existe pas. Ça existe pour l'alcool, ça n'existe pas pour le tabac. Et là, avec la communauté des vapoteurs, on commence à voir des gens qui occupent le terrain et dont on va pouvoir utiliser l'expérience. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc après, sur les controverses scientifiques, je reviens quand même au sujet. Il y a aussi la communauté médicale, scientifique, qui a émis... un certain nombre de recommandations qui ont débouché sur un rapport de la Haute Autorité de Santé qui dit un mot sur la cigarette électronique. Alors, il en ressort quand même que la cigarette électronique, objectivement, est un produit majoritairement utilisé par des fumeurs et non pas par des non-fumeurs, dont l'objectif est soit de réduire, soit d'arrêter leur consommation de tabac. Et l'objectif principal en santé publique, c'est bien celui-là, c'est-à-dire c'est l'arrêt de la consommation de tabac. Donc tout processus qui permet d'arrêter de fumer va être observé de près. Et si on compare le contenu de la fumée de cigarette avec le contenu de l'aérosol qui est généré par la cigarette électronique, il n'y a pas photo, on est dans une réduction de toxicité.
Ça, c'est une certitude.
Ça, c'est une certitude. On ne peut pas dire qu'il y a zéro toxicité, on va dire que la toxicité est beaucoup moins importante. Alors, il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui disait « Oui, mais là, on a trouvé du formaldéhyde dans la vapeur de e-cigarette, 15 fois plus que dans une fumée de cigarette. » Alors, quand on regarde un petit peu plus près cet article, on s'aperçoit qu'en réalité, il a mesuré la présence de formaldéhyde, qui est une substance cancérigène, dans la fumée de cigarette, en utilisant une machine à fumer, c'est-à-dire une manière standardisée de fumer qui ne correspond pas forcément à la réalité du fumeur. Et il a mesuré dans la vapeur de cigarettes électroniques en utilisant une machine à vapoter, qui ne correspond pas exactement, mais dont il a modifié également le voltage de la cigarette électronique. Et en fait, c'est là que ça coince, c'est-à-dire que le voltage qui a permis d'obtenir des concentrations très importantes et inquiétantes de formaldéhyde est un voltage très fort et qui n'est pas utilisé en fait par les vapoteurs. C'est-à-dire que c'est un voltage qui produit une chaleur beaucoup trop importante qui, semble-t-il, n'est pas possible sur le long terme, c'est-à-dire que ça deviendrait insupportable à vapoter et donc les gens laisseraient tomber, quoi. Voilà. Donc ce n'est pas du tout des conditions standards d'utilisation de la cigarette électronique et c'est pour ça que cette étude met simplement en garde. C'est une étude qui simplement dit au pouvoir public, attention, ce produit-là, il faut qu'il soit réglementé. Il ne faut pas que ça soit possible de produire de la vapeur avec ce voltage-là, parce qu'à ce voltage-là, on n'est pas dans des conditions de sécurité. Mais il indique simplement des recommandations pour qu'on puisse normer, réglementer la production des cigarettes électroniques afin que ça soit pas possible. Ça veut pas dire, c'est pas un article qui était destiné à dire aux gens attention, c'est beaucoup plus dangereux que la cigarette.
Oui, voilà, c'est les interprétations qui ont été faites de l'article.
C'est les interprétations qui ont été dramatisantes et c'est dommage parce que on tient là, je pense, un outil vraiment intéressant pour certains fumeurs, notamment ceux qui viendront jamais nous voir, notamment ceux qui veulent ni aller voir un médecin ni aller voir un pharmacien pour arrêter de fumer, parce qu'aller voir un médecin, un pharmacien, c'est quelque part dire, je vais voir un professionnel de santé, donc je suis malade, et je ne suis pas malade. Et donc, on a toute une frange dans les vapoteurs de gens qui vont pas, médicaliser leur arrêt du tabac parce qu'ils considèrent que c'est pas le sujet. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est un recours intéressant. Et voilà, après c'est pas forcément l'article qui en lui-même est un article bien conduit, c'est l'exploitation qui en a été faite qui pose problème.
D'accord, ça me semble important de, voilà, de préciser tout ça. Ouais. Mmh. Et vous, la cigarette électronique, vous l'utilisez comment ? Thomas et Laurie, deux jeunes adultes, nous racontent leur façon de voir la chose.
Ça fait tout juste 2 mois, parce que ça fait bien 6 mois que j'ai envie d'arrêter de fumer, que j'essaye de diminuer, et les patchs, tout ça, ça me disait pas trop. J'avais vraiment envie d'un bon substitut définitif, et pour moi, la cigarette électronique, c'était un compromis parfait.
Salut, moi c'est Thomas, et je fume depuis plusieurs années.
Ça faisait longtemps que je m'y étais mis et puis je devais arrêter parce que ça marchait pas plus que ça, c'était pas terrible. Le truc c'est que j'ai changé d'atomiseur en fait, il s'appelle comme ça, ou cartouche, l'endroit dans lequel tu mets le liquide en fait, le tank, ils appellent ça comme ça en anglais je crois, ou je sais pas quoi. Et maintenant ils sont vachement mieux, les résistances sont plus pratiques, ce qui fait que ça, tu fais un peu plus de fumée, le goût est meilleur et tout ça, donc ça évolue et en bien, ce qui est dommage d'ailleurs que les gens soient pas trop courants, ils achètent de la merde.
D'accord, et tu fumais à quelle fréquence quand tu fumais du tabac conventionnel ?
Ça dépendait, ça pouvait aller de 5 clopes par jour à une dizaine, et en soirée ça pouvait monter un peu plus, et j'en avais un peu marre de trop fumer. J'avais plusieurs personnes de ma famille, ils m'ont pas mal convaincu en me disant que ça avait bien marché pour eux. Ça faisait bien quelques mois que pour eux ça avait bien marché, pour l'instant ça continue, donc ça m'a incité à faire pareil. Enfin, je leur ai posé des tas de questions. S'ils alternaient entre la clope normale et la clope électronique, s'ils ne fumaient pas 2 fois plus avec la clope électronique, ce genre de choses. Et finalement, je me suis dit, la meilleure façon de le savoir, c'est d'essayer.
Au final, voilà, les clopes, parfois, ça revient, c'est revenu, quoi. Mais là, effectivement, ça fait quoi ? Ça fait 1 mois, là, mine de rien, je m'y tiens. Bon, après, évidemment, je suis en soirée, je fume des clopes, quoi, de temps en temps. J'ai plus le réflexe quotidien de la clope, tu vois. Ça c'est assez impressionnant. Ouais, le soir je suis chez moi, je préfère fumer ma petite clope électronique, tu vas pas pout.
Déjà je fume plus chez moi du tout, même pas à la clope électronique. Je fume assez régulièrement, mais j'ai pas l'impression de fumer plus qu'avant. Pour l'instant il y a encore le droit de fumer dans les bars, donc je fume un peu plus à ce niveau là. Beaucoup de gens m'ont dit mais en fait tu t'arrêtes pas de fumer, mais c'est pas ce que je voulais faire, je voulais pas m'arrêter de fumer parce que j'ai toujours besoin de la gestuelle, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai une addiction. Et la nicotine, bien sûr, puisque je prends pas de liquide e-cigarette sans nicotine. Donc, il y a des moments où je peux vraiment pas m'en passer. Ouais.
Tu as acheté ta première cigarette électronique, t'avais la volonté de réduire ou d'arrêter de fumer à ce moment-là ?
Non, c'était pour déconner. Parce que j'avais des potes, j'avais des potes qui tenaient un magasin de clopes électroniques. Arrêter pour arrêter, j'arrêterai quand j'aurai un gamin, à la limite, tu vois. Là, j'ai pas de raison d'arrêter.
C'est vraiment surtout tous les effets négatifs de la clope que t'as pas, quoi. L'odeur, le goût dégueulasse dans la bouche quand t'as fumé une clope.
Pour l'instant, moi, j'ai plus tendance à penser que c'est beaucoup mieux. En tout cas, j'ai plus la pâteuse le matin. Je me sens beaucoup mieux quand je fais du sport. Le matin, je suis plus essoufflée. J'avais des douleurs au poumon avant, et là, ça se retrouve plus du tout. Pour l'instant, j'ai survécu au premier de l'an. J'ai survécu aux examens de janvier. J'ai survécu à de nombreuses soirées en dehors, en ville et tout ça. J'ai été au contact de beaucoup de gens qui fumaient. Et pour le moment, j'ai pas craqué. Ça me va très bien, en fait, la clope électronique.
De retour avec Catherine de Bournonville, médecin tabacologue au CHU de Rennes, pour parler des usages de la cigarette électronique.
Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être des indications un peu plus précises sur les profils des usagers de cigarettes électroniques que vous rencontrez, vous, et notamment sur la question de leurs motifs dans l'utilisation
Oui, alors, je pense que pour avoir des idées plus statistiques, il faut attendre les résultats de l'enquête de l'INPES qui a interrogé plusieurs milliers d'usagers de la cigarette électronique. Nous, en consultation de tabacologie, je ferai un petit parallèle avec les attentes que les gens ont vis-à-vis des traitements de l'arrêt du tabac. Il y a un certain nombre de personnes qui ont des attentes, je dirais, magiques. C'est-à-dire quelque chose qui va parfaitement remplacer la cigarette dans le but de supprimer totalement, définitivement les zombies, c'est-à-dire faire de moi un non-fumeur alors que j'étais un fumeur avant. Les personnes qui ont cette attente-là par rapport à la e-cigarette sont déçues, comme ils sont déçus de tous les traitements du sevrage. C'est-à-dire que c'est une mauvaise compréhension de la dépendance que de penser ça. La relation entre le fumeur et sa cigarette, surtout la relation psychologique, elle est vraiment unique. C'est comme si vous aviez une rupture amoureuse et les gens vous disent une de perdue, dix de retrouvée. C'est, dans la réalité, c'est pas du tout ça. Quand vous perdez la cigarette, vous êtes dans un espèce de chagrin d'amour et c'est pas parce qu'on vous donne un ersatz sous forme de cigarette électronique. Voilà, il faut. C'est vraiment un choix. Ce qui doit préexister, c'est le choix de se séparer de la cigarette. Et à ce moment-là, on ouvre les yeux et on regarde, on est à l'affût de n'importe quel outil. Le deuxième profil, c'est ça. C'est les gens dont l'objectif, c'est d'arrêter de fumer. Ils vont utiliser la cigarette comme outil. Et puis, et ceux-là, je ne les vois pas tellement, par contre. Donc, ceux-là, c'est les gens qui vont l'utiliser par curiosité et qui vont s'apercevoir que finalement, il y a plein de moments où il se passe très bien de cigarette avec cet outil-là. Et chez qui, un peu malgré eux, alors qu'au départ, il n'y avait pas d'intention d'arrêter de fumer, eh ben, ils arrêtent. Parce que finalement, ils trouvent... Voilà. Donc, après, je pense qu'on a besoin de données pour savoir si peut-être c'est des personnes qui sont un peu moins dépendantes et du coup avec une relation un peu moins forte avec la cigarette et qui peuvent s'en passer plus facilement en utilisant finalement un substitut. C'est un substitut, la cigarette électronique.
Ce que vous dites, par contre, c'est que ça ne remet pas en question donc, la dépendance au tabac dans la mesure où vous mentionnez des critères psychologiques qui consistent à combler finalement le manque. Et,
Voilà. Alors, pour certaines personnes, ça va suffire. Pour la plupart des cigarettes de la journée, mais certaines ne vont pas pouvoir être remplacées par la cigarette électronique. Et donc, ils ne vont non pas être dans un arrêt du tabac, mais dans une réduction de consommation, qui D'accord. peut être très forte. On peut passer de 40 cigarettes par jour à 5 cigarettes par jour en utilisant le reste du temps la cigarette électronique. Voilà. Ça, sur le plan de la santé, on n'est pas très à l'aise avec la réduction de consommation. On sait que probablement ça a un impact sur la qualité de vie, c'est-à-dire que la plupart du temps, quelqu'un qui passe de 40 cigarettes par jour à 5 cigarettes par jour, il se sent mieux. Même avec la cigarette électronique par-dessus, il se sent mieux, il respire mieux, il tousse moins, les gens lui disent que son teint s'est éclairci, etc. Il y a un bénéfice au niveau de la qualité de souffle et tout. Par contre, c'est pas du tout dit qu'il augmente son espérance de vie en faisant ça, parce que le simple fait d'être exposé tous les jours à la fumée de cigarette, ne serait-ce qu'une fois par jour, on sait que ça constitue un facteur de risque pour la santé, parce que le risque tabac est plus lié à la durée d'exposition qu'à la dose. C'est-à-dire que tant que vous êtes exposé, vous risquez, même à une cigarette par jour. Voilà. Donc on incite forcément les gens à réfléchir à... à vraiment un arrêt total pour obtenir un maximum de bénéfices de leur cigarette électronique.
Est-ce que ça garde ses effets potentiellement bénéfiques dans la durée ? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de se lasser finalement du produit ?
Alors c'est possible, ça c'est les choses sur lesquelles on n'a pas encore assez de recul, très probablement. Ouais. Que la cigarette électronique puisse entraîner des addictions, c'est probable, puisqu'on a tout ce qu'il faut pour le faire, on a une substance addictive, on a un comportement. Alors, il faut savoir que la cigarette électronique ne permet pas de faire venir la nicotine au cerveau aussi rapidement qu'une cigarette. Et on sait que plus une substance arrive vite dans le cerveau après qu'on l'ait absorbée, et plus elle est renforçante au niveau de l'addiction. C'est pour ça que l'addiction au tabac, c'est vraiment une des addictions les plus puissantes, sinon la plus puissante. Parce que entre le moment où je tire une taf et le moment où ça arrive à mon cerveau, il y a moins de 10 secondes. C'est vraiment un shoot. La cigarette électronique... à l'heure actuelle, peut pas vraiment faire un shoot, mais néanmoins, c'est, on va dire, en deux derrière la cigarette, la substance qui permet d'apporter la nicotine la plus rapidement. Ça explique aussi pourquoi quelqu'un qui passe à la cigarette électronique va pas vapoter comme autrefois il aurait fumé. Il va avoir tendance très souvent à vapoter plus souvent que qui fumait avant. Ce qui peut des fois désespérer les gens en disant « bah ouais, je suis plus accro à ma vapote qu'avant à ma cigarette ». Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est simplement le signe qu'il est dépendant à la nicotine et que pour avoir une dose suffisante de nicotine, il est obligé de vapoter très souvent pour entretenir un taux de nicotine suffisamment confortable. Ça, c'est la phase initiale du sevrage, mais ce n'est pas forcément comme ça, ça ne dure pas dans le temps. Souvent, on s'aperçoit que les vapoteurs, au bout d'un moment, commencent à espacer un petit peu. Voilà, donc c'est le moment, souvent, ils envisagent, par exemple, de réduire la concentration en nicotine du e-liquide, etc. Enfin, ils changent un petit peu les choses. Quelquefois, ils changent le parfum. Ils n'aiment plus trop le parfum tabac. Ils vont passer à des parfums un peu plus, je ne sais pas, fruits ou...
En résumé, est-ce que, en tant que tabacologue, avec cette étiquette-là, vous recommanderiez la cigarette électronique dans des parcours de sevrage tabagique aujourd'hui ?
Ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, c'est de ne pas recommander en l'absence de données certaines, mais de ne pas décourager les gens de l'utiliser. Ce qui est quand même formidablement normand comme réponse, c'est-à-dire peut-être ben que oui, peut-être ben que non. En pratique, les personnes qui arrivent ici et qui utilisent déjà la cigarette électronique, je ne les décourage pas d'utiliser la cigarette électronique. Les personnes qui me disent j'aimerais bien essayer la cigarette électronique, je ne les décourage pas d'utiliser les cigarettes électroniques. Je recommande en premier les traitements validés du sevrage, et si ça ne marche pas, ça peut m'arriver d'aborder la question de la cigarette électronique sans en faire un conseil ni une prescription, mais ça, je dirais que c'est un petit peu la même chose ici, et c'est ça qui étonne parfois les gens, c'est que c'est très rare qu'on dise pour votre dépendance, etc., je vous propose de prendre ça. Quand on a fait le bilan avec la personne de son profil de dépendance physique, psychique, comportemental, etc., enfin, tous les aspects, souvent, il va se dessiner une solution possible. Et c'est souvent la personne qui va la proposer. Et quelquefois, c'est donc la personne qui va proposer. Voilà. Quand la personne est vraiment sèche, on va dire, voilà, dans votre situation, voilà ce qui pourrait améliorer votre confort. Et c'est là qu'il peut m'arriver de glisser que parmi les choses possibles actuellement, il y a la cigarette électronique. Mais ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une prescription. Je ne prescris pas, d'ailleurs je ne peux pas puisque ça n'est pas un médicament, voilà, oui. Mais je ne prescris pas la cigarette électronique.
C'était Enjeu de santé sur Radio Campus Rennes. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr. Je vous y glisse quelques liens pour approfondir le sujet, et notamment celui du site de la Société française de tabacologie. La prochaine fois, on revient sur les 10 ans de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Plutôt que de revenir sur ce qu'elle a apporté, nous ferons un zoom sur ce dont elle n'a pas parlé, et qui pourtant anime la controverse, la sexualité des personnes handicapées. À la prochaine !